Maintenant, on sait que les meilleurs account executives ne se reposent pas sur l'impact de leur BDR pour driver leur pipeline. PIES est une déclinaison de Medpeak, soyons honnêtes. Parce qu'il y a une prise de conscience de plus en plus importante de la notion et l'importance de la gestion de sa réputation en ligne. En tant que leader, tu dois être humble face à la question du recrutement.
Bienvenue sur le podcast de We Are Sales by DCS. Je suis Pierre Michel, cofondateur de l'agence Dreamcatcher Sales, agence experte en business développement B2B. Nous partons ensemble à la rencontre de personnalités inspirantes de la vente, entrepreneurs, directeurs commerciaux et top performers pour découvrir leur écosystème et pour se rappeler que nous faisons le plus beau métier du monde, celui de remettre l'humain au cœur du business. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Alexis Raca, Area Director de la superbe solution, on peut le dire, SaaS de veille et de social media intelligence, Meltwater. Alexis, très heureux que tu sois parmi nous aujourd'hui.
Merci beaucoup Pierre-Michel, ravi d'être avec toi aussi et de passer ce moment ensemble.
Eh ben, j'espère, si tu m'aurais dit l'inverse, j'aurais été un peu vexé. Alexis, avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que déjà tu peux te présenter rapidement quel est ton périmètre de poste, quelles sont tes responsabilités et le nombre de personnes que tu manages, sur quelle typologie d'équipe?
Ouais, bien sûr. Donc, je m'appelle Alexis Raca, j'ai 37 ans, ça fait 7 ans que je travaille chez Meltwater. J'ai un parcours un petit peu hybride puisque je suis diplômé d'école de commerce, que j'ai émigré vers l'Asie et j'ai habité 4 ans à Hong Kong. J'ai travaillé comme responsable financier dans une boîte de joaillerie à l'époque, mais c'était vraiment pour l'aventure humaine et entrepreneuriale. Et quand je suis rentré en France, je me suis plutôt lancé dans la technologie. J'ai monté une petite start-up avant de rejoindre Meltwater en 2016. J'ai gravi les échelons, j'ai démarré comme contributeur individuel en client success. J'ai pris un poste de direction par la suite avant de me lancer dans un rôle d'enterprise sales, puis d'area director depuis janvier l'année dernière. Et mon rôle consiste en plusieurs piliers. Je dirige donc l'organisation commerciale, client acquisition et customer success pour la région France, Espagne et Italie. Comment ça s'articule? Je me concentre à la fois sur le développement des équipes, le développement humain, donc l'upskilling, les skills, le coaching commercial. La culture d'entreprise, qui est la fondation de toute entreprise à succès, évidemment, définir les valeurs sur lesquelles on s'appuie pour conduire notre business, et évidemment la performance commerciale.
Ok, et ça représente une équipe de combien de collaborateurs que tu as géré?
Ouais, on est 40 sales en France, et on est plus largement un peu plus de 140 en France, en incluant les équipes ingénierie, développement, insights, et les fonctions support.
Donc toi, en direct, tu as la responsabilité des 40, plus après, derrière, à coordonner effectivement tout l'effort. Toi, de toute façon, on reviendra un peu sur les structurations d'équipe. Et très simplement, comment tu pourrais définir Meltwater? Quelle est l'offre de produit Meltwater et à quel problème ça répond auprès de vos clients sur le marché?
Oui, bien sûr. Donc, si on part du problème, c'est toujours, je dirais, la mécanique quand on fait les sales, on part du problème. Le problème, c'est le volume de données en ligne qui parle des entreprises, des produits, des expériences qui sont vécues par les clients. Le volume de data qui est présent en ligne rend la lecture de ces données très difficile pour les entreprises. Sans outils, c'est incroyablement compliqué pour une entreprise de savoir quelle est la perception de l'entreprise, de ses produits, des services qui sont proposés par les consommateurs. Et donc nous, ce qu'on propose, c'est une suite de solutions SaaS qui permet aux entreprises de veiller leur réputation en ligne, de collecter des données de millions de différents data points. Et on parle aussi bien des médias en ligne internationaux. Okay. Et donc là, on va parler de... je ne sais pas, Le Parisien en France, New York Times aux US, et tous ces médias en ligne internationaux qui ont énormément d'influence sur la perception d'une marque, et tous les réseaux sociaux, les réactions et les conversations spontanées sur les réseaux sociaux. Et ça, agréger ces données, les traiter, les enrichir avec des algorithmes, ça permet de, je dirais, comprendre la réputation d'une entreprise.
Donc c'est sur la Martech, c'est vraiment comme de la BI, ça permet vraiment après derrière pour ces marques de faire de l'aide de la prise à la décision, de pouvoir mieux orienter leurs marques, comprendre leurs consommateurs, etc. Et c'est très orienté B2C ou il y a aussi une grosse activité B2B?
C'est une excellente question. La plupart de nos très gros clients sont des clients B2C qui accordent énormément d'importance à la compréhension de leur audience. Mais on adresse également des clients B2B qui ont des concurrents à suivre, une réputation évidemment à maîtriser et un narratif à déployer. Parce qu'il y a aussi toute cette dimension influence, permettre aux clients de déployer leur communiqué de presse via Meltwater, leur social media stratégie sur les réseaux sociaux, etc.
Après, je ne sais pas si c'est que ma perception par rapport à notre activité dans l'écosystème tech, mais en plus, j'ai l'impression que les boîtes B2B développent de plus en plus un média, de stratégies de communication, font de plus en plus de contenu. Bah, d'ailleurs, c'est ce qu'on fait avec, avec We Are Sales.
Ouais.
Et c'est pour ça que je me posais la question, est-ce que pour vous, le B2B, c'est un secteur qui est en croissance ou ça reste quand même un peu plus à la marge par rapport au B2C, c'est quoi ta vision sur le marché, sur cette thématique?
Je dirais que ça dépend de la culture de l'entreprise, de sa volonté de transparence et de la taille critique qu'on a besoin d'avoir quand on est une entreprise B2B pour, je dirais, déployer une stratégie de communication. Il y a plein d'entreprises B2B qui font 500, 1000 employés, qui ont un revenu qui est assez important, mais qui accordent assez peu, finalement, de considération à la gestion d'une communication en ligne ou ce genre de choses. En revanche, dès qu'on commence à être sur des parcs d'employés plus larges, il y a la nécessité de pouvoir recruter, d'être attractif sur le marché. Donc, le B2B, c'est forcément un segment en croissance pour nous, parce qu'il y a une prise de conscience de plus en plus importante de la notion et l'importance de la gestion de sa réputation en ligne.
Et est-ce que c'est un marché très concurrentiel aujourd'hui, ce social media intelligence? C'est quoi un peu le panorama du marché?
Je dirais que c'est un marché assez concurrentiel. Si tu regardes l'écosystème de Meltwater, donc on va couvrir pas mal de différents segments dans notre offre de produits. On va couvrir de la veille média, du social listening, du social media management, du PR release, ce genre de choses. Et sur chacun de ces segments, on a des concurrents locaux qui ont une offre de service et une singularité qui peut plaire à certaines entreprises et des concurrents globaux. Et donc, au final, tu as vraiment un écosystème assez dense d'acteurs qui peuvent répondre aux besoins des entreprises. Ce qui fait notre force à nous, c'est vraiment le côté global company, global content, donc vraiment du contenu et de la data qui vient de partout dans le monde. Et donc, on permet de particulièrement bien répondre aux use cases grande entreprise, enterprise use case.
Ok, très clair. Les interlocuteurs, c'est quoi? C'est direction marketing, j'imagine?
Oui, CMO et directeur communication. C'est souvent les deux cibles principales auxquelles on s'adresse.
Et c'est un produit qui a évangélisé ou il y a déjà des budgets dans les entreprises?
On a dépassé cette phase d'évangélisation. Ouais. Aujourd'hui, il y a une prise de conscience assumée, une volonté assumée des entreprises d'être en gestion de leur réputation et de comprendre leur audience. Quand tu parles à des directeurs marketing aujourd'hui, ils ont une obsession, et elle est tout à fait normale, c'est cette customer obsession, comment je peux définir mieux les attentes de mon audience pour pouvoir les adresser avec une offre cohérente et pertinente.
Tu es dans la boîte depuis 7 ans maintenant, mm-hmm. Donc ça commence à être un sacré parcours, donc j'imagine que tu as vu les différentes évolutions. Entre le moment où tu es arrivé et aujourd'hui, est-ce que tu as vu des gros pivots dans la stratégie commerciale? Quel était un peu le fil rouge directeur? Parce que c'est une sacrée success story quand même, Meltwater.
Ouais, écoute, des pivots stratégiques dans la stratégie commerciale d'une boîte comme la nôtre, il y en a quasiment tous les ans. Je pense que si je retrace un peu le parcours de Meltwater, c'est une boîte qui a énormément fonctionné sur l'acquisition, de par justement la notion d'évangélisation que tu évoquais au préalable. Donc on faisait la majorité de notre business grâce à de l'acquisition. Puis après, on a transitionné vers un modèle land and expand, où on essayait de trouver de l'expansion sur nos comptes clients existants. Et aujourd'hui, vraiment, le cœur de la stratégie commerciale de Meltwater, c'est de s'adresser à des entreprises qui ont des besoins toujours plus complexes pour augmenter la valeur de notre ARR par client. Et on sait aussi que sur les segments enterprise, large, mid-market, le churn est beaucoup plus bas. Donc forcément, il y a la volonté de se concentrer sur le use case enterprise et je dirais, la réponse à ce use case-là, dont on sait qu'elle est cruciale pour pouvoir croître de manière durable et sur le long terme.
Je reviendrai tout à l'heure sur la cible enterprise. On est aujourd'hui le 23 janvier 2024, pour ceux qui écoutent les épisodes un peu après. On fait le bilan sur l'année 2023. Comment vous l'avez vécu, vous, l'année 2023? C'était un peu le bordel dans la tech, il faut se le dire. Vous, dans votre secteur d'activité, c'est passé comment?
Écoute, je trouve qu'on s'est bien défendu. Ouais. On s'est bien défendu. Ça a été une année challenging pour le secteur de la tech, en France, en Europe. je pense que ça a été une année challenging pour l'économie de manière générale. Et donc, on a senti effectivement la contraction des budgets, la contraction de l'économie de manière générale, des contrats plus difficiles à défendre à certains moments. Mais on s'est très bien défendu. On a eu des taux de rétention sur notre segment enterprise qui était très bon. Je dirais peut-être un segment mid-market qui a un petit peu plus souffert. Mais de manière générale, on a réussi à produire une performance similaire à l'année précédente, mais avec une meilleure efficience et une meilleure profitabilité au sens large.
Ok, bah c'est beau, hein, parce que franchement, le nombre de cuts, de layoffs que tu as pu avoir sur le sujet effectivement de la Martech, ça a quand même piqué, ça a quand même piqué pas mal. Et justement, qu'est-ce que tu as appris là, de ces deux dernières années par rapport à toutes les difficultés effectivement qu'on a pu vivre, et qu'est-ce que ça te donne envie de mettre en place pour 2024? Qu'est-ce que tu as appris finalement de ces dernières années?
Écoute, ce que j'ai appris, c'est déjà de garder le cap, de faire preuve de résilience, d'être convaincu de la direction dans laquelle on va, et de toujours faire autant d'efforts, voire plus que dans le passé. Parce que quand l'économie se contracte, c'est toujours le prestataire ou l'entreprise qui va faire l'extra mile, qui va gagner les business, qui va gagner la confiance des clients et sur le long terme, la confiance du marché. Donc la résilience, ça a été le mot-clé sur les 12-24 derniers mois.
Et est-ce que cette résilience, elle était présente dans les équipes, ou c'est quelque chose qu'il fallait leur apporter? Parce que moi, personnellement, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui s'est perdu après les années 2020, 21, 22, dans lequel il y avait énormément de budget, sur lequel il y a des scores et des shots contrats assez forts, que effectivement la notion de gain, de niaque, d'extra mile, comme tu le dis, a été plus difficile à remettre en place dans les équipes.
C'est vraiment une question de mindset. Je pense que c'est presque une question qu'il faudrait individualiser. Ça dépend vraiment du drive de chaque individu, des ambitions qu'il a pour lui-même, des perspectives long terme qui se définit pour lui-même.
Alors justement, comment ça se gère la motivation dans les équipes? Qu'est-ce que tu peux mettre en place dans les équipes sales? On n'est que des sales, hein, sur notre média et des head of sales, donc on peut se dire les choses. On a tous des périodes up and down. Toi, c'est quoi tes meilleurs tips effectivement que tu mets en place dans tes équipes? Est-ce que c'est des challenges? Est-ce que c'est des, je sais pas, c'est des super pitchs sur lesquels on rappelle la vision? Est-ce que c'est des séminaires? Est-ce que c'est des outils? C'est quoi pour toi les meilleurs leviers pour amener de la motivation dans les équipes?
C'est tout ça à la fois, Pierre-Michel.
Ouais, mais là, tu vas pas m'aider. Tes meilleurs tips à toi.
C'est tout ça à la fois. C'est la vision, le vision setting, ouais. Définir les objectifs qu'on chasse ensemble. Okay. C'est super important. Je pense que et puis mesurer le progrès trimestre après trimestre.
Okay. Vers ces victoires, quoi.
Vers ces objectifs-là, évidemment. Okay. Moi, j'ai toujours été drivé par l'instinct de compétition aussi. Faire mieux que ce que j'avais fait l'année précédente, faire mieux que mes homologues dans les autres pays, dans les autres areas de Meltwater. Je pense que le drive, l'instinct de compétition, c'est des éléments qui sont très importants aussi dans le monde des sales. Et après, la culture, le côté teamwork, on travaille ensemble, on travaille pour le bien et le revenu de l'entreprise, mais parce qu'on sait que si on fait du bon job ensemble, ça va ouvrir des perspectives, des nouveaux rôles, des perspectives excitantes pour chacun. Je pense que ça, c'est important de communiquer ce message-là.
Ok, donc recréer un peu un team spirit avec un esprit de conquête et y aller tous ensemble, quoi.
Ouais, je pense que l'oubli de soi dans le monde de l'entreprise, parfois, ça peut être aussi une clé de succès. C'est évidemment que je dois penser à mes intérêts personnels, à mon modèle de compensation, notamment quand j'occupe une fonction commerciale, c'est une évidence. Mais savoir mettre son énergie au service de son équipe, c'est souvent ce qui accélère les carrières dans le monde des sales.
Tu me parlais tout à l'heure, effectivement, qu'en stratégie 2024, il y avait une stratégie de premiumisation de compte, c'est-à-dire aller sur l'enterprise. Dans tes équipes, est-ce que, justement, tu les as structurées par rapport à la taille des comptes à adresser? Si oui, quelle est la structuration? C'est quoi un peu le cycle de vente sur l'enterprise?
Excellente question. C'est... Notre segment enterprise, il est défini par, je dirais, des données firmographiques sur la taille de l'entreprise, le revenu qu'elle génère et le nombre d'employés. Okay. Ça, c'est un premier critère qu'on prend en compte. Et naturellement, la dépense avec Meltwater est un deuxième critère qu'on prend en compte. Plus tu as un contrat qui est haut, plus tu as de chances d'atterrir dans le segment enterprise avec Meltwater, c'est normal. Comment les équipes sont construites, c'était
Ouais, est-ce que tu as des équipes, tes équipes sales, elles sont verticalisées par secteur d'activité, par taille de compte, est-ce que tu as des avant-ventes, des SDR, des BDR, des AE, comment tu as structuré un peu les équipes sales?
Sur l'équipe enterprise, on a deux personnes en enterprise sur la partie acquisition qui sont assistées par un BDR.
Donc un BDR, deux AE Enterprise, full chasse, new logo.
Exactement, net new logo. Et on a un département Customer Success Enterprise avec un Customer Success Executive qui drive l'adoption, qui crée des champions chez les clients, qui a un rôle extrêmement important dans nourrir la relation client, faire en sorte que la relation se passe au mieux et qu'on répond aux objectifs business du client. Il y a un Account Executive Growth, qui est chargé de développer la relation, développer des nouveaux use cases et expand les ARR avec le client, évidemment.
Ok, comme un CAM, quoi, au final.
Comme un CAM, ouais, exactement. Okay. Ça dépend un peu de la terminologie qui est utilisée dans chaque entreprise. Et on va avoir un program manager qui va offrir du support premium en complément sur la partie customer success.
Donc une sacrée équipe.
Ouais. Okay. Si tu veux convaincre les plus gros groupe du marché français de doubler, de tripler leur spend avec toi au fur et à mesure des années, il faut investir sur une expérience client de qualité, c'est indispensable.
Et tu as gardé ces mêmes structurations d'équipe aussi pour les autres tailles de compte?
Écoute, on déploie ce système sur chaque segment. On avait un système un peu différent par le passé, mais aujourd'hui c'est, je dirais, le blueprint d'Enterprise qui va être déployé sur mid-market et sur le segment SMB. Il y a un rôle dont je n'ai pas parlé qui, à mes yeux, est un rôle extrêmement important dans l'organisation Customer Success et qu'on a déployé au niveau Enterprise et qu'on déploie aussi au niveau mid-market, c'est le rôle de Renewals Manager. Et c'est quelqu'un qui est, je dirais, expert de la négociation commerciale et qui va faciliter le processus de renouvellement en Customer Success.
Okay.
Qui décharge le Customer Success Executive de toute cette dimension admin, négociation commerciale, qui peut finalement l'éloigner de la création de valeur pour le client.
Ok, très clair, très clair. Si je te pose cette question, c'est un peu un petit market fit que je fais en ce moment, qui commence à faire du débat sur le sujet en fait, du coût d'acquisition client, où en fait tu te rends compte que parfois pour faire une vente en SaaS, même en termes de charge mentale pour ton interlocuteur, tu peux avoir 5, 6, 7 interlocuteurs du côté fournisseur différents. Tu vas avoir un SDR ou un BDR, tu vas avoir un avant-vente, après tu vas avoir un account executive, après tu vas avoir un CAM, après tu vas avoir un CSM. Et donc pour faire une vente, tu te retrouves avec 5, 6 personnes de l'équipe sales ou CSM, ce qui te fait exploser effectivement après derrière tes coûts d'acquisition et qui peut fatiguer aussi dans le cycle de vente l'interlocuteur. Donc je voulais avoir ton point de vue sur ça. Bon, sur Enterprise, ça se comprend, mais sur des cibles mid-market, est-ce que cette structuration te semble toujours aussi pertinente puisque c'est celle qu'on défendait ces dernières années?
Ouais, c'est intéressant comme question et comme questionnement, c'est sûr. Non, c'est... Ça me rappelle... Ça me rappelle une étude que j'avais lue des marketeurs de Gong, qui parlait de ce concept de la discovery fatigue qui était exprimé par les acheteurs. Ils disaient, on exprime nos besoins au BDR, on répète ces besoins-là à l'account executive, on finit, si on signe le contrat, par le répéter au customer success manager qui prend la suite, et on a le sentiment que l'amélioration... Enfin, qu'il y a une possibilité d'améliorer la transmission d'informations. En tout cas, c'est ce que l'étude désignait. Je pense que sur les segments mid-market, tu peux être plus lean que ça. Tu peux avoir... moi, j'aime bien le concept d'avoir un account exécutif qui est vraiment coordinateur de projet et qui s'appuie sur des ressources, typiquement un product spécialiste, quelqu'un qui va l'accompagner sur la démonstration et qui va... vraiment être owner d'une partie du process commercial, mais le account executive est le CEO du compte qu'il prospecte, et c'est lui qui coordonne les ressources autour de lui pour proposer une expérience d'achat de qualité au client. C'est vraiment comme ça que je vois un processus d'acquisition efficace. Le BDR peut évidemment avoir de l'importance pour initier la conversation, le process commercial. Maintenant, on sait que les meilleurs account executives ne se reposent pas sur l'impact de leur BDR pour driver leur pipeline.
Ouais, absolument. Autre sujet, on l'avait évoqué rapidement quand on s'était eu au téléphone la première fois. On discutait un peu tous les deux, effectivement, du taux de churn qu'il y avait actuellement sur le marché. C'est quoi pour toi, en fait, les raisons du churn de manière, effectivement, générale dans la MarTech? Et c'est quoi les leviers que toi, tu travailles, justement, pour limiter ce taux de churn qui n'a jamais été aussi fort en 2023 que les années précédentes?
Il y a beaucoup de raisons au churn. Et on fait une analyse du churn quarter après quarter. Évidemment, c'est extrêmement important de faire ce pas de recul et d'essayer de comprendre ce qu'il y a derrière ce churn. Pourquoi ce client qui m'a fait confiance il y a un an, il y a deux ans, il y a trois ans, qui a travaillé avec mon service, s'est éloigné de la proposition de valeur pour laquelle il avait signé initialement? Je pense que si tu regardes l'année 2023, il y a des facteurs externes qui sont la contraction de l'économie, comme on l'a évoqué préalablement. Mais est-ce que tu peux vraiment te cacher derrière ces facteurs externes pour expliquer ton attrition? Je pense que quand tu drives une organisation commerciale, c'est quelque chose que tu peux évoquer rapidement, ouais. mais tu passes très rapidement dessus. Ouais. Et tu te concentres sur comment j'améliore l'expérience de mon client, comment je nourris des champions chez mon client, comment je sécurise mes comptes stratégiquement. La loi de Pareto aussi, 20-80, est-ce que j'ai une bonne maîtrise de mon portfolio et est-ce que je sais où passer mon temps et quel client prioriser?
Ok, top. Donc, première raison du churn, climat macroéconomique, tension. Quelles seraient pour toi deux autres raisons effectivement du churn qu'on pourrait analyser et améliorer?
Tu es forcément obligé de parler du produit et du fit entre le produit et le service qui est proposé au client et le pain, le problème qu'il souhaite régler. Donc, forcément, il y a cette question-là qui se pose, à quel point le product évolue pour répondre aux enjeux du client, des enjeux notamment dans la MarTech qui évoluent tout le temps avec l'émergence de nouveaux canaux, l'émergence de nouveaux réseaux. Et après, en tout cas, je pense qu'en tant que leader sales, tu dois le plus possible te concentrer sur comment mes ressources sont mises à disposition au service de l'expérience client. Et comment tu peux faire en sorte que les responsabilités qui sont données aux équipes de Customer Success soient claires, qu'elles aient une mission définie, claire, avec un modèle qu'elles peuvent répliquer sur tous leurs comptes du portfolio.
Et justement, dans cet objectif d'apporter une expérience client de qualité, comment tu fais communiquer la partie client et la partie CSM?
Assez simple, mais il y a une transmission d'informations qui est templatisée grâce à un formulaire qui, je dirais, retrace un certain nombre d'éléments qui sont clés pour que le Customer Success Manager derrière puisse avoir une bonne compréhension des enjeux du compte et des raisons pour lesquelles le client a signé avec nous.
Ok, donc pas de frustration à ce niveau-là. C'est comme tu peux avoir parfois quand tu as des grosses équipes SDR et à compte exécutif. Donc ça, c'est plutôt cool. Mm-hmm. En termes de sales stack, est-ce que toi, il y a des outils SaaS que tu utilises pour tes équipes, des CRM, des outils de grosses, etc., qui t'ont marqué sur 2023, que tu as mis en place ou que tu aimerais mettre en place et qui apportent vraiment de la valeur dans les équipes?
Si je devais, on en a un certain nombre, hein, des solutions, des outils pour nous aider à vendre, mais si je devais en sélectionner un, ce serait vraiment Gong.
Ouais.
L'outil d'intelligence conversationnelle qui permet de coacher ses équipes, en fait, tout simplement. C'est incroyablement utile. Ça permet de donner du honest feedback, du feedback honnête sur la qualité des conversations commerciales. Et j'encourage tous les managers qui le peuvent à enregistrer les calls de leurs équipes et se poser avec un membre de leur équipe une fois par semaine ou une fois toutes les deux semaines, revoir un call ensemble et déjà proposer à la personne qui a conduit le call de s'auto-évaluer. On sait que c'est très difficile de s'écouter vendre, mais il le faut. Et après, ça te permet, toi, en tant que manager, de donner du feedback de manière honnête, constructive, dans l'intérêt de la personne que tu manages. Et surtout, en essayant de donner des points d'action activables derrière, quoi.
Vous utilisez une méthodologie de vente particulière, je ne sais pas, Spin, Medic, Spice
Oui, Spiced. On était sur Medic, on est sur une variation de Medic qui est Spiced. Ouais.
Tu peux pitcher rapidement la différence pour ceux qui ne connaissent pas?
Le Spide, c'est un framework qui est assez simple à déployer et qui part de la situation du client. Le P vaut pour le pain, le problème qu'on s'apprête à régler pour le client. L'impact, en le divisant en impact rationnel et impact émotionnel. L'impact rationnel, ça peut être la perte de temps à consacrer à une tâche en particulier. La perte émotionnelle, c'est que je perds de l'engagement dans ma fonction professionnelle parce que je n'ai pas d'outils adéquats pour, pour accomplir ma mission. Après, il y a le critical event qui est souvent un déclencheur dans un process commercial. Et le D, c'est le decision making process. C'est comment je navigue les différents stakeholders qui sont impliqués dans le processus de décision.
Et ça, quand vous avez changé de méthodologie de vente, après changer, bon, c'est des ajustements un peu à la marge pour donner un peu plus de visibilité sur ça. Est-ce que vous avez retravaillé, redessiné le cycle de vente ?
Pas réellement, puisque notre process de vente était designé sur Medpeak initialement. Et que Spice est une déclinaison de Medpeak, soyons honnêtes. Okay. À mes yeux, en tout cas.
Je ne sais pas si c'est confidentiel ou pas.
Ça l'est.
Ça l'est, alors. Si je pose la question, ça l'est. Tu m'avais dit de mémoire que vous aviez travaillé avec Winning by Design pour redéfinir, effectivement, redesigner un peu ce cycle de vente. C'est une boîte qui est hollandaise, je crois. Ouais. C'est quoi ton expérience avec eux? Est-ce que tu conseilles aux VP, aux head of, à ceux qui ont ces responsabilités, effectivement, de passer par des boîtes de conseil pour prendre un peu de recul sur leur cycle de vente? C'est quoi ton expérience à toi? Parce que ça se fait assez peu en France, ça commence à se faire. J'aimerais bien ton retour d'expérience.
Ouais, c'est des gens passionnants. Ouais. C'est des gens passionnants. Je conseille notamment la chaîne YouTube de Winning by Design, où ils mettent à disposition énormément de ressources. Sur le monde des sales qui, quand on est passionné par la vente, sont extrêmement intéressantes. Et le CEO est d'ailleurs assez inspirant. Tu sens qu'il a une véritable passion pour le process de vente, la fluidification des process de vente. C'est assez, assez intéressant à voir. Je n'étais pas en direct avec Winning by Design dans le cadre de la collaboration avec Meltwater, mais je sais qu'ils nous ont partagé des playbooks super intéressants. Ils nous ont assisté dans le redimensionnement de certains rôles. Ils nous ont assisté dans la redéfinition de notre stratégie commerciale début 2023. L'utilisation de Spice vient notamment de notre collaboration avec Winning by Design. Et le CEO de Winning by Design sera présent à notre sales kick-off en février. Il va donner une keynote, donc ce sera intéressant à observer.
Comment ça se passe aujourd'hui pour, en termes d'accès aux compétences? Tu arrives aujourd'hui facilement à recruter des sales avec qui tu as envie de bosser? Tu es toujours effectivement en pénurie de besoins. Comment ça se passe aujourd'hui dans le secteur de la Martech pour les head of sales qui nous écoutent, pour voir s'il y a des comparables?
Déjà, je pense qu'il y a moins cette volonté de recruter à tout prix. Je pense qu'on a tous, en tant que leader sales, vécu l'expérience de growth for the sake of growth, de développer le business par de l'augmentation de headcount. Je pense qu'aujourd'hui, on en est un peu revenu. La pression des marchés, la pression des investisseurs fait qu'il y a une volonté de se concentrer sur, je dirais, des effectifs peut-être plus denses, peut-être plus réduits, mais sur lesquels on investit vraiment, qu'on aide avec des outils pour l'enablement, ce genre de choses. Et je dois dire que sur la deuxième partie de l'année 2023, nos recrutements ont été assez fluides. On a trouvé des profils de super qualité avec lesquels on est super content de travailler aujourd'hui. Et on est passé soit en direct, soit par cabinet.
Et c'est quoi justement, outre effectivement les parcours de carrière, les prérequis, etc., les signaux faibles quand tu es en entretien ou les indices qui te permettent de te dire « Tiens, ce manager, ce sales, ce CSM, effectivement, il est fait pour mon équipe. » Ce n'est pas toujours facile de le recruter. Finalement, on va passer que quelques heures avec un candidat avant effectivement vraiment de le découvrir au quotidien dans les bureaux et d'investir sur lui. Est-ce qu'avec toutes ces années de recul, tu as développé des tips ou tu as des petits trucs qui te permet de cerner ceux qui te conviennent?
Déjà, je pense qu'il faut dire qu'en tant que leader, tu dois être humble face à la question du recrutement. Comme tu le dis, c'est une discipline qui est difficile. C'est pour ça que des entreprises comme Dreamcatcher Sales existent aussi, parce que vous proposez du conseil aux entreprises en recrutement et que ça peut être incroyablement important pour ta profitabilité en fin d'exercice. Une erreur de recrutement peut coûter très cher.
Eh ben merci, je prends les compliments.
Moi, ce que je regarde avant tout, c'est la passion.
La
passion. Le métier de sales est difficile. Le métier de sales est extrêmement exigeant. Il y a des up and down. Et seule la passion te permet de conserver un engagement constant. Et on sait que c'est l'engagement constant qui est la clé du succès en sales. Donc pour moi, la passion, c'est critique. C'est super important. Je regarde aussi le business acumen. Comment tu te comportes en entretien, ça me permet d'évaluer aussi ton aptitude à conduire une conversation commerciale ou un meeting commercial avec des clients exigeants. Et donc le business acumen, c'est quelque chose de aussi très important. Et puis on regarde aussi la personnalité. Est-ce que j'ai une personne avec laquelle j'ai envie de passer du temps en face de moi? Est-ce que je vois du fun chez cette personne? Chez Meltwater, on croit vraiment que proposer un environnement de travail où on s'amuse ensemble, c'est clé pour la rétention de nos people. Donc avoir des gens qui ont de l'humour, qui ont de la répartie, qui ont une intelligence sociale et émotionnelle, c'est aussi des choses qu'on regarde avec attention.
Passion et business is a game. C'est ça, hein, on vend avec nos tripes, hein, quand on est sales, hein, donc si on n'est pas passionné avec ce qu'on fait, au final on tient pas longtemps, et on est bon à partir du moment où on est passionné, hein, les deux vont ensemble.
Le cœur et le cerveau.
Exactement. Et toi, alors je sais que c'est toujours difficile comme question, en tant que leader, qu'est-ce qui fait pour toi, hein, ta spécificité, ton unicité en tant que leader sales, toi Alexis?
Donc, ok, tu me demandes de conduire une introspection
ou alors je peux te la reformuler. Tu me diras comment tu préfères la répondre. Par exemple, qui est ton top performer chez toi? Déjà, on va le féliciter. Donne-moi un nom, le top performer du mois de janvier.
Le top performer Q4, c'est quelqu'un qui s'appelle Raphaël.
Et alors, d'abord, Raphaël, félicitations. On félicite les top performers, c'est toujours important. Si j'appelle la Raphaël et je lui dis, écoute, je suis avec Alexis, si tu devais, de manière positive, donner 2-3 mots-clés, ça serait quoi? Il dirait quoi, Raphaël?
J'espère qu'il dirait que j'ai une vraie volonté d'aider. J'ai occupé des fonctions commerciales où j'étais en face du client, où j'étais concentré sur, je dirais, mon succès individuel, l'atteinte de mes targets, etc. Aujourd'hui, je suis vraiment exalté par voir mes équipes réussir, accomplir leurs objectifs, etc. C'est ça qui m'excite, quoi. Donc je pense qu'il dirait que j'essaie d'aider le plus possible, donc que je suis une ressource. Je pense qu'il dirait aussi que j'essaie d'être relativement humble. Il y a pas mal de choses que je ne sais pas et je le reconnais. Et j'essaie de ne jamais prendre une décision non informée. Donc voilà. Et je pense qu'il dirait que je suis passionné. Et de la même manière que je recherche de la passion quand je recrute, je pense qu'il faut conserver ce feu et ce drive interne. Aujourd'hui, je suis passionné par le développement de l'entreprise, mais aussi passionné par les carrières qu'on peut dessiner pour des personnes dans mes équipes, et passionné au-delà de ça par le développement des individus. Je pense que quand tu progresses dans le monde des sales, tu progresses aussi en tant qu'individu, tu t'accomplis en tant qu'homme ou femme, ça ouvre des perspectives et des possibilités. Les plus grandes joies de mes années de manager, c'est de voir des jeunes de 25-26 ans s'acheter leur premier appartement avec les bonus qu'ils avaient fait grâce à Meltwater. Je trouve que c'est extraordinaire pour un manager.
Justement, dans ton parcours, toi, tu as gravi énormément d'échelons, tous les échelons quasiment. Il t'en reste quelques-uns encore à gravir chez Meltwater. Peut-être qu'un jour, tu leur feras une LBO, on ne sait jamais. Quel conseil tu donnerais justement aux sales ou aux CSM qui gravissent les échelons et qui se mettent à manager, puis après diriger leurs anciens collaborateurs? Ça, c'est des sujets qui sont assez récurrents et qui nécessitent de l'accompagnement. Quels sont les pièges à éviter? Quelles seraient les recommandations, effectivement, que tu pourrais faire par rapport à ton expérience? Parce que ce n'est pas toujours aussi simple que ça.
Le piège à éviter, c'est de vouloir, je dirais, soit tout faire tout seul, soit diriger sans écouter. Et je pense que ça peut être un piège dans lequel certains managers tombent, quoi. Quand on est manager, quand on est leader sales, il faut être très à l'écoute, il faut être humble, il faut fixer des caps, il faut fixer des directions et des practices. Mais il faut aussi être à l'écoute et humble face à ce que les personnes qu'on manage nous remontent. Quoi. C'est super important.
C'était quoi la plus grosse dinguerie sales que tu as eue en 2023? Là, c'est la question que je pose en ce moment, parce qu'il y en a, tellement eu. La plus grosse casserole ou à l'inverse, le plus beau succès, le plus beau deal que vous avez closé sur 2023?
Ouais, moi j'ai toujours été marqué par les ventes de dernière minute. Ouais. Tu sais, c'est ces contrats que tu es capable de créer dans la dernière semaine avant closing et que tu rentres en closing day et qui sauve soit ton quota individuel, soit le quota de l'équipe, soit ça, je trouve que c'est des moments qui sont rares et qui sont des moments de célébration dont je me souviens. Et après, en termes de casseroles, on a eu une ou deux casseroles l'année dernière qui ont été dures à accepter. C'est des contrats qui sont très, très avancés dans le sales process, où on a un accord verbal, un accord commercial et qui s'auto juridique, tu vois, où on n'arrive pas à se mettre d'accord avec le client d'un point de vue terme, d'un point de vue contrat, d'un point de vue légal. Et le contrat saute à ce stade-là, et là, il faut l'encaisser, quoi.
Très dur. Ouais, quand la compliance s'en mêle, t'as les allers-retours à ce niveau-là.
Exactement.
Aïe. Et comment tu gères après, derrière, avec l'AE là, qui s'est tapé les 6, 8, 9, 10, 12 mois de cycle de vente pour un peu lui remonter le moral, parce que ça pique, ça. Ça nous est tous arrivé quand la compliance s'en mêle.
On l'a tous vécu. Ouais. On l'a tous vécu, ce contrat dans lequel tu crois, et t'as tout fait pour le faire rentrer. Et pour une raison qui est hors de ton contrôle, il rentre pas. C'est dur, mais il faut l'accepter. C'est le business. Le business est fait de bonnes surprises parfois. Il faut savoir les apprécier. Ça te permet aussi de compenser, je dirais, les difficultés que tu peux rencontrer et les mauvaises surprises de ce style.
Un sales envie de rentrer chez Meltwasers et où il rejoint ton équipe. C'est quoi le meilleur conseil que tu as envie de lui donner pour cartonner chez toi et faire une belle carrière chez Meltwater? Ce serait quoi les recommandations que tu lui donnerais?
Ouais, sois incroyablement curieux, au-delà du raisonnable, et travaille très dur.
Ça paraît simple, mais c'est tellement pertinent, travailler dur. Voilà, faut se redire les choses de manière complètement claire. Tu veux du succès, travaille dur.
Enfin, je pense que avant d'arriver au stade de confort dans l'exercice de ta fonction, dans l'exercice de ton poste dans le SaaS, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de hard work derrière toi, quoi. Donc, écoute, toutes les personnes qui sont arrivées à des rôles de management ou de leadership sont soit extrêmement brillantes, soit très hard worker.
Ou les deux en même temps. Ou un peu des deux. Allez, deux dernières questions. La première, parce que c'est quand même aussi un peu les actualités buzz du moment, surtout dans ton secteur d'activité. Ouais. L'IA, game changer ou effet soufflé?
Game changer.
Game changer.
Game changer. Déjà, game changer.
Question orientée. T'as quand même un concurrent dans le secteur qui est passé au journal de TF1, ouais. Au premier licenciement économique dû à l'IA. C'est donc vrai. Je me devais de te poser cette question.
Non, bien sûr, game changer. On sait que l'IA générative va accélérer les process, va accélérer le time to insight, accélérer les prises de décision. Ceci étant dit, nous, on a le sentiment que l'intelligence humaine a toujours énormément de valeur. Et tu vois, on travaille pour des très grosses boîtes françaises sur du consumer insights, et notre software est évidemment alimenté par des mécanismes auto-apprenants, l'intelligence artificielle, ce genre de choses, mais on propose aussi en complément des services, du reporting, etc., qui sont faits par des insight managers, des analystes, qui vont rentrer dans la data et proposer justement cette couche d'analyse humaine. Donc évidemment, game changer. Mais ça n'empêche pas que l'intelligence humaine a encore énormément de valeur.
Donc en fait, pas d'autre choix que de l'intégrer effectivement à vos outils, mais ce qui donne encore plus de valeur finalement à la notion d'analyse, qui doit être encore supérieure par rapport à ce qu'elle était avant, pour continuer effectivement qu'elle soit intéressante pour vos clients. Ça doit être une sacrée pression justement pour vos analystes, parce qu'ils doivent élever leur niveau de jeu, ou justement l'IA leur permet d'élever naturellement leur niveau de jeu.
L'IA leur fait clairement gagner énormément de temps, ce qui leur permet de se concentrer sur la qualité, plus seulement de l'analyse, mais aussi des recommandations qu'ils sont capables de proposer à nos clients.
Dernière question, ouais. Malheureusement, j'aurais même encore t'en poser plein, mais c'est pas grave, on se prendra quelques verres et puis je les garderai pour moi. c'est l'avantage. Mais j'adore en fait cette interview et je le dis à ceux qui nous écoutent, c'est extrêmement égoïste, ça me permet de monter en compétence. Donc j'espère que ceux qui les écoutent aussi par ricochet leur permettent aussi. Si je devais interviewer une personne après toi, ça serait qui? Est-ce que tu as un nom qui te vient en tête? À part Raphaël qui nous donne ses secrets pour le top performer.
Est-ce que tu as déjà eu Clément Boulet?
Non.
Ouais. Qui est DG d'une entreprise de la fintech qui s'appelle TrueLayer.
Ok.
Qui est un de mes amis.
Eh ben écoute, Clément Boulet, ne sois pas étonné si je te passe un call ces prochains jours pour qu'on s'organise un petit meet pour un podcast. Je viendrai introduit par Alexis. Et comme on sait, quand on est sales, la meilleure chose est d'être introduit pour obtenir ce qu'on veut. Ça, c'est top.
C'est un warm lead.
Yes. Alexis, un énorme merci pour notre échange.
Merci à toi.
Très ouvert, très transparent. Merci à nos auditeurs We Are Sales, toujours plus nombreux. On va avoir une année 2024 incroyable, après une année 2023 de dinguerie, année stabilisation marché 2024, où là, les enjeux de boîte vont se faire par rapport à notre capacité de résilience, d'envie, d'ambition, de passion, de capacité à s'amuser, pour aller défoncer effectivement tout ce qu'il y a à défoncer en termes de closing et de deal. Ça va faire du bien, on va refaire sonner les dongs. Bravo pour ton aventure chez Medwater. Je profite aussi derrière de ce podcast pour annoncer, on le refera, que sur tout au long de l'année 2024, on lance effectivement les ateliers Prospective Sales, des ateliers où on se réunit à 6-7 DIRCO sur des thématiques extrêmement précises,
ouais.
Comment gérer les cycles de vente longs et complexes, comment utiliser l'IA pour contacter effectivement nos prospects, parce qu'on pense, donc on réunit une cinquantaine de Head of Sales dans ce projet, parce qu'à 50 cerveaux, on va bien trouver des trucs fun à faire pour ces prochaines années. Sur ces belles paroles, je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne nuit, ça dépend à quelle heure vous nous écoutez, et à très bientôt sur le média de We Are Sales by Dreamcatcher Sales.
Merci beaucoup Pierre-Michel.